Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, épisode 24 avec autour de la table nos chroniqueurs pour débattre de l'actualité. Et on commence avec toi mon Jean-Marc, comment que tu vas bien ?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et j'en profite pour remercier 100% Canary qui m'a permis de te chanter à l'antenne jeudi soir.
Eh ben, on les embrasse. Et puis en guest aujourd'hui, un invité,
C'est Clément Lebas.
Clément de France Bleu. Salut Clément, excuse-moi pour cet oubli et bienvenue à l'antenne de Money Time.
Merci beaucoup messieurs, bonsoir à tous. Et oui, quel plaisir, on a pu chanter tous ensemble jeudi soir. C'est sûr que c'était un plaisir de vivre ça. Je pense qu'on va pouvoir en reparler plus longuement, mais... C'est vrai que ce match-là, il risque de rester dans les mémoires, on va expliquer pourquoi.
Jeudi ou mercredi, on ne sait plus.
Oui, c'est mercredi.
Ouais, le match, c'était mercredi, mais on a chanté jeudi surtout.
On en reparle tout de suite avec vous les garçons. On continue les présentations avec toi mon Charles, comment que tu vas bien ?
Bah, écoute, ça va très bien, merci d'être présent tout le monde ce soir ici, aux invités évidemment, ça fait plaisir de recevoir des invités. Et puis je vous souhaite une bonne émission pour discuter de l'actualité très vive de cette semaine.
Oui, ça arrive tout de suite. Et pour conclure les présentations, ce soir avec Fabrice.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, j'ai vécu une grande semaine nantaise, donc c'était génial. J'y étais. J'ai fini sur la pelouse de la Beaujoire. C'est la première fois que ça m'arrive. Et quel moment.
Bon, bah alors au sommaire de cette émission, bien sûr, la folle semaine du FC Nantes, hein, Coupe de France, championnat. La page des résultats des clubs nantais, on revient sur tous les clubs qui étaient sur le pont ce week-end. Et puis, dans notre rubrique multizone, tout le reste de l'actualité sportive. Mais pour l'instant, c'est l'actu des clubs nantais, c'est le score en stock.
Money Time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer cette rubrique en parlant de hand avec toi Jean-Marc et du H bien sûr pour commencer.
Allez, commençons avec le H. On aura un petit mot après pour l'équipe de France parce qu'il y avait une très bonne nouvelle pour la joueuse Oriane Ondono. Mais tout d'abord, Nantes ne jouait pas de match mercredi, puisque en raison des...
De la guerre en Ukraine,
exactement,
oui.
Le match contre Medvedi Tchekov a été reporté sine die. Du coup, Nantes recevait Dunkerque, c'était vendredi soir, et Nantes a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match. Enfin, c'est pas qu'il y a eu du mal, parce que Nantes ouvre bien le score, mène 5-1 à la 7e, et puis va s'éteindre d'un coup, jusqu'à se faire passer devant par Dunkerque, par une très belle équipe de Dunkerque qui mène 9-8 à la 19e, et qui va même prendre un petit peu de large à la 25e, mais Nantes va revenir à -1 à la mi-temps. Grâce à Linus Persson, qui aura bien fait le job.
Champion du monde en titre, hein, rappelons-le.
Exactement. Et puis, grâce à un très très bon Samir Belhassen, le gardien de Dunkerque, qui aura fait une super paire, 12 arrêts, je crois, Dunkerque va tenir, réégaliser à la 45e après avoir été mené de 4 buts, à 19 partout. Et puis, dans le dernier quart d'heure, c'est Lucas de la Bretèche. Du Moulin de la Bretèche, pour être exact, qui va faire une super perf, lui, le jeune Nantais, qui va mettre 4 de ses 5 buts dans le dernier quart d'heure. et qui va permettre au Wasch de l'emporter 29-25. Bonne perf, surtout quand on sait qu'en même temps,
Aix
a perdu à domicile par Saint-Raph. On se rappelle Saint-Raph, c'est l'équipe qu'on avait battue deux fois, mais qui nous avait bien embêté il y a quelques semaines. Et 29-25 aussi. Et puis, il y avait un autre match aussi de Paris qui jouait au Phare à Chambéry, qui a galéré, mais tout le match, hein, Chambéry aurait même logiquement, s'il y avait un dieu du handball, l'emporté. Mais on voit le côté très professionnel des Parisiens qui vont l'emporter finalement 33-27. Mais quel scénario de fou, hein. Ce qui fait qu'au classement de la Liqui Moly Star League, le PSG en tête, 38 points du coup, on ne les rattrapera pas, hein, c'est mal barré. Et du coup, seul deuxième, le HBC Nantes, 31 points devant Aix, 29. Montpell reprend une place qui lui correspond, la quatrième avec 23 points. Cesson juste derrière, 21 points, la cinquième, c'est déjà une belle perf. Mais à une longueur, il y a Chambé et Toulouse qui ont un match en moins qui devrait repasser devant.
Mais à noter surtout, c'est pour le prochain match du HBC Nantes.
Oui, oui, oui. Alors, prochain match au programme, c'est demain à Benfica en Coupe d'Europe. Ça va être un gros match. Hein. On se souvient, le match aller, c'était à la XXL. Il y avait eu...
Match nul. Partout, si ma mémoire est
bonne. Exactement.
Quelle ambiance ce soir-là.
Un match de fou.
C'était fantastique avec un scénario incroyable où Nantes passe devant, puis Benfica revient, repasse devant, puis Nantes arrive à égaliser et à la fin, un match...
Avec ce jeu à 7 et les deux pivots.
C'était incroyable. Franchement, et puis la salle XXL, on va le dire, s'en fout, hein, mais dès qu'il y a une possibilité, vous qui aimez le sport à Nantes, il faut y foncer.
Il faut y aller. On rappelle, hein, pour le H, important de finir dans les deux premiers s'ils veulent organiser le Final Four.
Mm-hmm. Aussi, ouais.
Donc ça va se savoir très vite.
Fonction des résultats de cette dernière journée d'European League. Un mot des filles.
Oui, alors attends, juste avant. Du coup, juste pour avant. Te dire que ce que tu annonçais, c'est le déplacement le 13 au Paris Saint-Germain pour les violets.
Là, gros match.
Donc ça va être gros match.
Surtout que derrière, 22e journée, donc la deux journées après, il y aura un ex Paris Saint-Germain. On sait que forcément, contre PSG, ça va être compliqué. Et le gros match.
Il y a un Nantes-Aix
lors de la 24e journée, qui va être aussi très décisif pour cette deuxième place.
Il sera décisif, exactement. Et puis, Dunkerque, on va les recroiser dans très bientôt, dans une dizaine de jours, vers le 23 mars, en Coupe de France, pour le 4e tour. Donc, c'est que des trucs et des scénarios, et ça revient. Et ça... Alors, du coup, le petit mot des filles. Donc, tout le monde sait que les Neptunes ne jouaient pas et joueront leur prochain match, ça sera le 12 mars à Celles-sur-Belle. Mais parce qu'il y avait le match des Bleus. Et le match des Bleus, ils avaient une double confrontation contre la Croatie. Divana, Kapitanovic, la gardienne de Metz. Premier match était à Koprivnica en Croatie, victoire de justesse des Nantais. Des Françaises, pardon, 21-19, elles menaient à la mi-temps 12-8, mais ça a été extrêmement compliqué. À noter, les meilleures marqueuses sont deux sœurs, Coralie et Déborah Lassource, avec 4 sur 5 et un 3 sur 5. Et puis dimanche, il y avait le match retour à Toulouse, dans une ambiance de folie, hein, c'était sur l'équipe et sur Bein, 4400 spectateurs. On peut pas avoir tous les matchs chez nous des équipes de France, en fait. Ils nous les donnent pas. Parce qu'ils nous donnent les championnats, nous. Donc,
c'est déjà pas mal.
Mais c'est déjà pas mal. Donc, content de partager avec les Toulousains. Et puis, un match assez serré. Hein. La France part devant, mais ça dure pas. On est à 9 partout à la 26e. Grâce justement aux deux gardiennes, Kapitanovic pour la Croatie et Laura Gloser qui a fait cette première mi-temps.
Ça n'a pas duré longtemps, hein. On est très vite revenu à 16-9 et ça a été vite fait.
Alors il y a eu 9 partout, après la France est repassée devant à partir de la 26e puisqu'il y a eu une joueur exclue pour 2 minutes. Du coup, légère avance pour les Françaises, mais ça va revenir quand même un petit peu dans le... Puisqu'elles vont revenir à moins 3 et même un petit peu moins, à moins 1. Les Croates à la 39e, et puis c'est là que Cléopâtre Darleux est rentrée, a déployé ses ailes et a arrêté à peu près tous les tirs, et du coup on passe à 20-14 grâce au 20e but. Lui, il est marqué par Oriane Ondono, la Nantaise. Oriane Ondono qui finira le match avec un 4 sur 5, meilleure marqueuse du match, meilleur pourcentage avec Graza Adi, Océane Sercien et Stellan Zemiko, mais qui ont eu plus de tentatives. Et au final, la France, du coup, l'emporte. Je ne sais pas si je vous ai donné 29. Le score. 27-19. Et puis, donc, les gardiennes, 8 sur 8 pour Cléopâtre Darleux. 8 sur 18 pardon, pour Cléopâtre Darleux. 8 sur 17 pour Laura Gloser. Et 9 sur 33 pour Ivana Kapitanovic. Un très bon match. Du coup, la France est qualifiée.
Cocorico.
Et il reste deux matchs, mais il y a un match, on ne sait pas s'il aura lieu, c'est le 23 mars contre l'Ukraine, la réception de l'Ukraine au Havre.
Ouais, tu sais qu'on n'est pas inquiet, de toute façon, pour les Bleus.
En sachant que deux de nos joueurs françaises peut-être élues meilleures joueuses du monde cette année-là.
Oui, c'est le cas. Donc, évidemment. Pauleta Foppa, la pivot. Voilà,
tout à fait, ouais.
Et mais puis, c'est Graza Adi, je crois, qui est la deuxième.
Voilà, tout à fait, ouais.
Et à noter qu'il y
dans
avait
les favoris, il y a deux Françaises déjà dans ce tour premier.
Exact. Et dans ce stage à Toulouse, il y avait aussi Floriane André, la gardienne, mais qui n'a pas joué.
Très bien, allez, on change de terrain. On parle de hockey, de nos Corsaires déjà qualifiés pour les playoffs en première division. Match de gala samedi au Petit Port pour les Corsaires face aux éléphants de Chambéry dans le cadre du Hellfest Game.
Exactement, le match du Hellfest, un match fou. Dans une patinoire bondée. Je ne sais même pas combien ils étaient, tellement ils étaient nombreux. Les Corsaires qui vont être menés deux fois au score. La première fois, retour au bout de 5 minutes, la première fois à la 5e, égalisation de Paul Schmidt pour Nantes à la 10e. Puis au début du 2e tiers, avant que les Nantais n'emballent ce match qui est diabolique, grâce à Crowder et Brenton, prennent de l'avance. Mais il faut attendre les 5 dernières minutes pour voir Brian Sotreau marquer le 4e but qui énerve toute la patinoire, fait que les tambours descendent devant.
Et qui a réveillé Martin Lacroix.
Hein, et qui a réveillé Martin Lacroix, ça c'est clair. Et puis du coup, Nantes va faire un premier. Nantes va se faire revenir un petit peu à 4-3. Et puis, grâce à Blomberg, le Suédois, et Bergy on fire, les Nantais l'emportent dans ce match de feu du Hellfest. 7e victoire de suite pour les Nantais, c'est énorme.
Et la 3e mi-temps est incroyable.
Oui.
Avec un gros concert.
Gros concert Hellfest.
Comme on aime.
Mais il n'y était pas, il avait du travail.
Moi, j'étais obligé d'aller au volet.
Sur le reste de l'actualité.
Et du coup, oui, je n'ai pas eu l'occasion de voir le concert, mais bon, c'était un match.
C'était qui pour
j'ai les... pas le nom. J'ai pas
alors, ça reprenait ACDC.
D'accord, voilà, c'est très bien déjà. Du heavy metal. Quoi.
Dans la patinoire.
Oui, sur la patinoire. Donc, ils ont mis tout en place pour que les gens puissent monter et puis s'éclater dans la patinoire.
Et le maillot, comment il était?
Ah, il était plutôt classe, hein. J'en ai discuté avec Tanguy Auger, il le trouvait très chouette, avec des variantes de rouge et de marron, assez sympa. Hein.
Bon alors, sur l'agenda pour les Corsaires donc
Ça rattaque dès demain avec un déplacement sur le terrain des Remparts de Tours, les 13e, mais quand on sait la rivalité des tribunes entre les Remparts de Tours et les Corsaires, on annonce un match extrêmement chaud. Avant vendredi de recevoir le leader, les Albatros de Brest.
Hein. Gros match.
On connaît cette équipe de Briec-Bonnour tout en folie. Quand il s'y met, ça va être un énorme match. Mmh. Et puis dès le samedi, le dernier match de la saison contre les Vipers de Montpellier.
On enchaîne.
Objectif de Martin, il me l'a confirmé, le 10 sur 10.
Ah bah c'est là, ça serait magnifique.
On lui fait confiance.
Et puis ça fait une belle remontada au classement avec ces 7 victoires d'affilée. Et si on peut continuer, ça serait bien.
S'il y a un 10 sur 10 entre du coup les playoffs qui commencent une semaine après, donc il y a une semaine de break, Martin viendra nous raconter cette saison lundi prochain.
Tabernacle.
Tabernacle, Mars.
Bon, et on enchaîne avec des résultats de volée de nos boys, Jean-Marc.
Exactement, les boys, j'ai été les voir. Attends que je retrouve exactement le bon.
Il devait plus rester beaucoup de 7 à voir quand t'es arrivé ici.
Si, il m'en restait un et demi.
Voilà. T'étais où avant?
puisque j'étais au Corsaire avant.
Eh oui, bah, et tu sais que omniprésent.
Il calcule pas pour enchaîner les matchs.
D'aller au petit port jusqu'à Rosé.
Il y a un peu de route. Heureusement, tout le monde était déjà dans les bars ou
dans les salles. Il a la place dans les rues de Nantes.
Il a foncé.
Du coup, les Nantais qui pourtant avaient remporté. Donc c'était contre le Plessis-Robinson qui était derrière au classement et qui promu, équipe d'un super joueur que j'aimais beaucoup, Médéric Henry, et qui s'éclate bien là-bas. Je ne peux pas vous passer le son, j'ai des petits problèmes de son. Du coup, premier set gagné par les Nantais, 25-20. Et puis les trois autres, hein, 25-22, 26-24, 25-19 pour le Plessis-Robinson. Il n'y a rien à dire.
Ça leur réussit, la Loire Atlantique. Hein, parce que l'année dernière, c'est contre Saint-Nazaire qu'ils ont joué pour monter en première div.
Exactement.
Et je m'en souviens parce que j'avais été du côté de Saint-Nazaire. Plessis-Robinson aime beaucoup jouer dans le 44. Il serait champion de France s'il jouait que des équipes du 44.
Exactement.
Bah, c'est peut-être parce qu'ils ont un ancien boys, Médéric.
Bah, il ne l'avait pas l'année dernière, en tout cas.
Ouais.
Non, super perf du Plessis. Une petite équipe, un des plus petits budgets de la Ligue. Mais une équipe qui sait se battre et qui s'était déplacée avec ses supporters. Ils étaient une soixantaine. Et ils faisaient beaucoup de bruit à Duga. Alors, pour les Nantais, il restera deux matchs. Deux matchs à l'extérieur. Et le prochain, c'est le 12 à Tourcoing. Alors, je vous explique parce que du coup, au niveau de la formule, les play-offs, c'est pas tout à fait mort, mais quasiment.
Oui.
Parce qu'il faudrait que tous les autres perdent tous leurs matchs. Et puis.
Nantes
voilà. Est dixième. Hein,
Nantes est dixième, à 4 points de Paris. Mais, et du coup, Nantes va s'engager sur des play-downs avec les 5 autres derniers. Bon, comme il y a une star de Pointe-à-Vérage.
Qui sont pour l'instant Toulouse, Poitiers, Cambrai et Cannes, et le Plessis qui est 9e.
Oui, et puis... Poitiers... Cannes, Poitiers...
Cannes, Poitiers, Cambrai,
oui.
Toulouse...
Nantes, coup, et Nantes, puis le Plessis. Sachant que Nantes et le Plessis risquent très peu de choses, puisqu'il y a une histoire de points d'avance par rapport aux résultats de la saison, donc...
Pour l'instant, on est devant.
Je pense
on a 5 points d'avance
que...
sur Toulouse, il y a peu de risques qu'on se fasse rattraper.
Logiquement, ça devrait être tranquille. Mais bon, la fin de saison ne va pas être joyeuse pour eux. Mais heureusement, on a les filles pour rattraper le tout.
Les passionnantes qui deviennent donc les Neptunes l'année prochaine. Pour
si
nos
tout
auditeurs.
Va bien, normalement dans l'absolu. On ne va pas s'emballer parce que des fois, on entend des infos...
Alors, le score de leur match du week-end...
Eh bien, le VBN l'emporte 3-7-1 face à Vendôme-Nancy. Une équipe qui joue pas mal, hein, Vendôme-Nancy. Ils ne sont pas très loin derrière. Nantes qui gagne le premier set 25-15. Perd le deuxième 27-25. Et remporte les troisième et quatrième 25-22 et 25-20. Et Nantes rejouera donc. Nantes est troisième et rejouera dès demain soir. C'est la réception de Béziers. Allez nombreux. C'est l'ancien club de Cyril Ong, le coach nantais. Et il se passe toujours plein de choses pendant ces matchs contre Béziers. Donc demain soir à 20h à Mangin. Et puis il y aura un autre match le samedi, donc le 12. Le déplacement à Terville-Florange dans l'Est là-bas. Et du coup, au classement, Nantes est troisième avec 46 points. Derrière Mulhouse et le Canet, qui sont premiers avec 51 points.
Oui, toujours une belle saison pour les filles.
Oui.
Allez, un mot de rugby, le SNUC.
Le Stade Nantais continue de gagner et de survoler cette Fédérale 2. Victoire 39-16, c'était contre Courbevoie, l'équipe qui était deuxième. 5 essais pour les Nantais. Du coup, au classement, Nantes est premier avec 79 points. Du coup, Courbevoie perd sa place. C'est Gennevilliers qui passe devant, 66 points. Enfin, la marche, c'est plus une marche, c'est une marche. C'est un escalier complet.
C'est un rempart.
Et prochain match, donc ça sera le 13. Du coup, c'est le déplacement au stade d'Aumontois à 15h. Et puis, j'ai deux résultats de basket, puisqu'on les suit quand même si ça ne va pas très fort pour eux. Bonne nouvelle pour les filles des Déferlantes, du CSP Déferlantes, qui l'emportent 62-54 face à la Tronche Mélan. Prochain match, ça sera à Chartres le 12. Et pour l'Hermine, une défaite sur le terrain de Nancy face au SLUC Nancy, 82-56.
Prochain la poudre, ça. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il est d'une importance capitale, celui-ci. C'est presque la descente qui joue, là.
Alors,
contre Nancy.
Nancy, eux, jouent la montée 3.
Ouais, mais quand on commence à regarder les points...
Ça commence à craindre, je suis d'accord avec toi, puisque Nantes est passé 15e, je crois, au classement. Il n'y a plus grand monde derrière.
16e.
16e, pardon.
Sur 18, 16e. C'est ça. Hein,
16e sur 18.
Et deux qui descendent.
Il reste Rouen qui est dernier et l'Allianz Sport-Alsace qui est juste derrière.
Alors je crois que Rouen, ça pue vraiment beaucoup.
Ah, Rouen,
mais en fait, il reste une place avec la 17e à aller chercher.
Il y a une place et il y a deux matchs hyper importants. Donc demain aussi, la réception de Quimper, ça va être chaud. Contre les Béliers de Quimper. Et puis, du coup, c'est le 11, donc vendredi, la réception, je crois, de Vichy-Clermont. Donc tout ça, la trois-quartière, donc ça. Il faut aller les supporter parce que sinon...
Bah, ils ont besoin de nous.
Ils vont peut-être même perdre la salle avec.
Une équipe de National 1 dans la trois-quartière, c'est vrai que ça ferait...
Bah, entre les déferlantes équipes de deuxième ligue, de deuxième niveau en basket pour les filles...
Avant que ça devienne les Neptunes.
Et oui, bah justement, hein, je peux vous assurer qu'il y a deux groupes de clubs qui regardent la trois-quartière avec envie.
Ouais.
C'est les Neptunes et les Boys. Donc, et il y aura remise en question à la fin de la saison sur qui fait quoi, où. Donc,
allez, on a été complet sur les résultats des clubs nantais. On enchaîne avec le reste de l'actu. C'est multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va parler évidemment de sport d'hiver pour commencer cette rubrique et forcément de biathlon avec toi, Charles.
Exactement, la saison de biathlon continue, hein, post-Jeux Olympiques.
On était à Kontiolahti, dans l'arc polaire.
Exactement, et on avait le droit à un bon week-end avec notamment des relais pour la première journée, enfin, pour les deux premières journées, parce qu'il y avait un relais par jour, et on a eu le droit notamment la victoire des Norvégiens sur les deux. La Norvège qui est impériale, encore une fois, s'impose largement devant la Suède et l'Italie chez les femmes. La France, malheureusement, disqualifiée pour une erreur de Justine Brezaz qui a pris une balle de pioche dans son chargeur de réserve. Elle n'avait pas le droit entre guillemets, de charger le chargeur de réserve. Elle fallait prendre la douille dans le chargeur de réserve pour la placer manuellement, ce qu'elle n'a pas fait. Résultat, la France disqualifiée perd la place, perd le petit globe de la spécialité du relais féminin. C'est un petit peu un coup dur, sachant qu'elle avait un petit résultat à faire et pas forcément aller chercher une victoire pour gagner ça. Donc, c'est un coup dur pour les Françaises. Mais on peut quand même se satisfaire du côté masculin avec un podium pour les Français, avec la troisième place du relais masculin, remportée forcément, comme je vous l'ai dit, par les Norvégiens. C'était Quentin Fillon-Maillet qui finissait le travail, mais un petit peu moins en forme sur les skis, notamment que Christiansen qui finissait ce relais et que Sébastien Samuelsson. Il finit quand même troisième, juste devant Philippe Navrat. C'était une course à quatre dans ce dernier relais pour les avec l'Allemagne du coup et dans ces derniers relais. Et bah c'était, on a eu assisté à une belle bataille, mais malheureusement Quentin Fillon-Maillet était un petit peu moins en jambes que les deux autres Norvégiens et Suédois.
Ouais, le samedi c'était les épreuves individuelles et bien sûr le sprint.
Évidemment, et le sprint, et bah là on a le droit à un régal encore une fois de Quentin Fillon-Maillet.
Sans Biélorusse, sans Ukrainien, exact. Sans Russe et sans Johannes Bö.
Si, il y a
les Ukrainiens.
Les Ukrainiens, ils sont là.
C'est ça, mais c'est les Biélorusses et les Russes qui sont...
Sauf ceux qui sont partis se battre.
Évidemment.
Il y en a beaucoup.
Pidrouchny, qui est le plus connu d'entre eux.
Et Timbal, qui est toujours caché dans une cave.
Ça, je sais pas. Si,
on l'a vu sur le compte d'Éric Lézère.
C'est possible, effectivement.
Éric Lézère qui a passé son compte...
À une biathlète, Merkouchina.
Instagram à Merkouchina, une biathlète.
Parce que là-bas, il y a avec les censures et tout, pour pouvoir dire, entre guillemets, c'est ce qu'il est à dire. Donc, c'est un beau geste de la part d'Éric Lézère, lui qui prendra sa retraite en fin de saison.
Bon, côté sport, donc, le sprint remporté par Quentin Fillon-Maillet, qui n'en finit plus lever les bras.
C'est exactement ça. À ce moment-là, c'était sa 14e victoire en Coupe du Monde. C'était encore une victoire sur le sprint, du coup, qu'il faisait passer notamment en tête du petit globe de la spécialité. Il s'impose largement devant Philippe Andersen et Johannes Kuhn. Un 10 sur 10, ça paye.
Je ne sais pas vous, messieurs, moi j'avais peur. Après Martin Fourcade, j'avais peur. Je me suis dit, ça y est,
que ça soit le grand vide.
Et puis que les Norvégiens arrivent, rafle-t-on, on a vu les frères Bœufs, etc.
C'est vrai qu'on avait des inquiétudes.
On voyait la Hugrie l'année dernière.
Je pense que, mais on n'y croyait quand même pas à ce point-là. Quand on voyait à l'époque, quand il jouait contre Martin Fourcade, on ne le pensait pas aussi fort quand même.
Bah, souvent, il a pas, il en fait.
Il le cachait, en fait.
Et t'inquiète que Mathieu, tu connais pas Mathieu, mais il avait déjà exécuté, envoyé à la cave. Il pensait tout sur Émilien Jacquelin. Mais non.
J'étais plutôt comme Mathieu, du coup.
Ouais. Il était toujours là, en fait. Il attendait sa place, son heure. Et c'est vrai qu'on était habitué à le voir sur les podiums, mais on n'était pas habitué à le voir gagner.
Exactement, et là cette année il enchaîne les victoires, on va pouvoir en parler, c'est sa victoire aussi, le doublé sur la poursuite avec cette sixième victoire d'affilée en poursuite, hein, en comptant les Jeux Olympiques. C'est pour dire le niveau actuellement de Quentin Fillon-Maillet. Il y a juste la première poursuite qu'il n'a pas remportée, sinon il les a toutes remportées. Actuellement, c'est le meilleur biathlète du monde. Il est stratosphérique des Jeux Olympiques de rêve. Là, il continue à survoler et tout cette Coupe du Monde avec un 19 sur 20 sur la poursuite. Il met à genoux tous ses adversaires. Et c'est même en épreuve face à un Émilien Jacquelin qui était très en forme sur ce week-end, surtout sur les skis. Et il a montré qu'il était. C'était lui le patron, en fait. Finalement.
C'est lui le boss et c'est lui qui va tout ramasser. Il gagne déjà le petit globe de la poursuite.
Exactement.
Il devrait gagner celui du sprint, si ça se passe bien sur le prochain, ainsi que le gros globe. Et il est deuxième de la Mastart, donc il peut aller tout chercher.
Sachant qu'il normalement il y a une Mastart la semaine prochaine, on est à Otepa en Estonie.
Sprint poursuite Otepa, ça sera la Mastart, ça sera pour la dernière à Holmenkollen. Mais de toute façon le gros globe ça va être dans la poche pour Quentin. J'ai envie qu'on reste sur les disciplines.
Juste une dernière chose, on va annoncer comme les petits résultats pour les femmes. La victoire de Denise Herrmann, l'Allemande, qui pourtant n'est plus toute jeune, a réussi à s'imposer et tout sur le sprint. Et c'est Thierry Lecoff, impérial sur la poursuite, qui retrouve enfin la victoire cette saison, qui a été très 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 forte impression sur ce poursuite. Là, on la voyait l'année dernière, qui avait survolé la saison dernière avec ce gros globe à la fin. Cette saison, c'était plus compliqué pour elle.
Non, cette année, c'était Royce. La grande dame du biathlon féminin. Parle-nous plutôt des superbes victoires de nos Françaises sur le cirque blanc, le circuit du ski alpin.
À Lanzarote 2, ce week-end.
En Suisse.
Exactement. Et là, on a eu le droit à une magnifique doublée française sur les deux épreuves féminines. On commençait par le Super G et la victoire de Roman Miradoli sur le Super G. C'était sa première victoire en Coupe du Monde, devant quand même des cadors de la discipline.
La plus grande skieuse de tous les temps, hein, on va le dire. Hein,
Chiffrine. Voilà, notamment, et puis Lara Gouttes-Bérami, Marta Bassino, c'est tous des noms là qui nous parlent. Et là, on a une Française qui a réussi à s'imposer. C'était un magnifique moment, très émouvant.
Et Tessa Worley qui signe encore une victoire en carrière.
C'est ça, après une belle sixième place quand même sur le Super G de ce week-end. Elle enchaînait avec le slalom géant et une magnifique victoire pour elle. Le slalom géant, c'est énorme. Je crois que c'est sa 15e victoire aussi sur le circuit de la Coupe du Monde du coup de ski alpin. Elle s'impose notamment devant Federica Brignone, Oussa Rector et Michaela Schifrin, 4e. Donc on est vraiment un week-end très, très agréable aux côtés des sports d'hiver entre les
absolument,
entre le biathlon
pas fini,
et le ski alpin.
Ça continue hein, jusqu'au final de Courchevel hein, pour le ski alpin. Courchevel qui sera bien sûr la station hôte des prochains championnats du monde en 2023. On attend ça avec impatience. Allez, on change de...
Alors, un tout petit mot on va rester sur le sport, mais le sport paralympique, puisque c'est les Jeux paralympiques.
Pardon, je les avais oubliés.
En ce moment à Pékin, la belle perf d'Arthur Bauchet qui gagne deux médailles d'or déjà en descente. Il y a Marie Bauchet, ça s'écrit pas pareil, qui gagne une médaille en argent sur le slalom géant. Et puis la belle perf, c'est celle de Cécile Hernandez en snowboard cross, 47 ans. Elle est atteinte de sclérose en plaques et elle est plus malade que ses concurrentes. Du coup, elle a été obligée de demander une autorisation pour courir dans une catégorie qui est plus dure pour elle. Ça a été très compliqué. Elle a fini par avoir l'acceptation une vingtaine de jours avant les JO. Et elle arrive... Elle est plus fatiguée du coup que ses adversaires et elle gagne l'or. Bravo à elle. À 45 ans, c'est une énorme perf.
C'est clair.
Cécile Hernandez.
Allez, on enchaîne avec d'autres sports. On va parler du retour de la MotoGP sur nos antennes avec toi, Fab.
Ouais, bon, voilà, c'était le Grand Prix de Lausanne. Au Qatar et Quartararo qui se plaint d'une moto
qui ne marche pas.
Alors, elle en est où, Sayam ?
Le problème, c'est qu'il a la même moto que l'année dernière. Ce problème, c'est les Bugatti, et tourne à 257 km/h de moyenne, et lui, il tourne à 249.
Et ça devait pas être réglé, déjà, l'année dernière, ce problème de vitesse.
Ça devait être réglé, parce qu'il a gagné le championnat du monde l'année dernière avec une moto performante, soi-disant. Mais là, voilà quoi. Donc il part très très loin sur la ligne. Il revient.
9e, je crois.
11e. 11e par la grille. Juste devant Zarco.
Il finit 8e, ben 9e. Mais il se fait dépasser par Zarco d'ailleurs dans le dernier tour.
Sur la ligne.
Sur la ligne, exactement.
Mais voilà, il se plaint. Voilà, faites le calcul sur une vingtaine de tours, 23 tours, à 10 km/h de moyenne.
Qu'est-ce qu'a fait son coéquipier sur la même machine ?
Morbidelli, pour pas te cacher, il a fait 11e. Mais
oui, 11e Morbidelli, parce qu'ils ont la même moto.
Mais ils ont la même moto, mais en plus, entre guillemets, il a profité aussi de tout ce qui est chute aussi.
Est-ce que les cartes sont rebattues cette saison en MotoGP ?
Les cartes sont rebattues dû au fait que cette année.
Parce qu'on n'a pas parlé du vainqueur, mais déjà, on a un nouveau vainqueur.
Non, mais exactement, on va en parler juste après. Mais c'est que la Yamaha, en fait, c'est que les autres ont évolué, mais pas la Yamaha, en fait, en tant que telle. Là où était l'année dernière, finalement, forcément plus proche des Ducati et tout ça, sauf que les Ducati, les Suzuki, même les Honda ont bien évolué cette année, ce qui fait qu'en fait, évidemment, ils sont bien en dessous cette année.
Comment tu peux nous expliquer que l'écurie championne du monde ne travaille pas son moteur pour la saison suivante ?
Parce que c'est pas leur priorité.
Voilà, c'est pas leur priorité. Je suis d'accord avec Charles, mais moi, je peux dire que les Ducati, celles qui gagnent, c'est pas une officielle.
Non. C'est
les Ducati officiels sont foutus à terre tous les deux. Ils se sont,
Jack Miller a un problème sur sa machine et Bagnaia a fait au premier virage, a tenté l'intérieur mais a perdu l'avant et du coup a emporté Jorge Martin, le poleman de Sophomore de cette saison, qui est du team Pramac, coéquipier de Johann Zarco.
Moi ce que je voulais dire, tu sais pourquoi elle va aussi vite la Gresini de
parce que
Enea Bastianini,
c'est la même que la moto de Bagnaia de l'année dernière.
Exactement, mais moi surtout j'allais dire parce qu'elle est tellement moche avec cette couleur PQ.
C'est vrai. Oh, j'adore la couleur, moi.
Je suis d'accord. Horrible.
Ah non, elle est belle la couleur.
Attends, ça me rappelle des pubs pour des papiers toilettes.
Je suis
d'accord. Ah, la couleur est affreuse.
Je suis d'accord avec Jean-Marc.
Donc c'est pour ça qu'il va très très vite, c'est pour pas que les gens voient la couleur de sa moto.
Mais moi, je pense que les Yamaha vont être obligés de revenir très 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 vite parce qu'il y a Honda et KTM qui poussent derrière.
KTM pousse,
ouais. Ouais, surtout. Ouais, KTM, je pense qu'ils poussent, dans tous les niveaux. Hein,
même la Aprilia avec Aleix Espargaró aussi.
Aprilia, leur résultat, il est impressionnant.
Quatrième,
ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Aprilia à ce niveau-là ?
Oui, c'est incroyable.
Mais les moteurs sont performants. Donc Yamaha va.
Surtout qu'il se plaignait d'une surpression sur son pneu avant, notamment sur son Grand Prix. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il est un peu moins performant.
Dès le 10e tour, il se plaignait déjà. Ouais.
Pour l'instant, il est au niveau des KTM.
Qu'ont fait les Suzuki, Rins et Mir.
Rins et Mir qu'on attendait très très performants sur ce premier Grand Prix, hein, surtout dans les essais libres, ils étaient très performants, on fait qu'une 6e et 7e place avec Johan Mir 6e et 7e pour les Rins. Bah finalement, on les voyait bien plus haut et là ils sont un peu déçus sur ce Grand Prix. Et même si
ils avaient le même problème de puissance. Ouais. Quand tu vois Quartararo qui passe à 347 km/h et sur la ligne et en ligne droite, et l'autre il est à 357 km/h.
Ils étaient à 10 km/h de plus pour les Ducati et notamment aussi pour les Honda.
Problème de chauffe de pneus avant. Ouais. Ils ont Suzuki et Yamaha ont le même problème. Donc voilà, c'est les motos qui sont de l'année dernière. C'est vrai qu'on se dit, voilà, une moto de l'année dernière, elle est pas si mal que ça. Mais c'est en Formule 1, c'est pareil. En moto, c'est pareil. Il faut se renouveler tous les ans. Se mettre à la hauteur de ses adversaires. Et il faut être très, très, très fort.
Ah oui.
Et travailler tout le temps.
Et on sait que Yamaha, enfin que du coup, Quartararo est en fin de contrat chez Yamaha, qu'il n'a toujours pas prolongé. Que si...
Moto non officielle, attention.
Mais que si... Ouais, exactement. Mais si Yamaha n'arrive pas à se remettre, entre guillemets,
à
la page et à améliorer sa moto, l'année prochaine, à mon avis, Quartararo risque potentiellement de partir.
Alors, c'est qui chez Ducati, chez Honda ?
Moi, je le vois bien chez Honda à côté
de
Marc Marquez.
Si il a un guidon, c'est pas fait. Hein.
Pour moi, je le vois plus chez Honda.
Encore.
Pour moi, je le vois plus chez Honda à côté de Marc Marquez. Même si Paul Espargaró fait du super boulot, Marc Marquez c'est quand même une icône du MotoGP et à côté, je trouve, avec Fabio Quartararo à côté, je pense que ça serait idéal, sachant que la Honda est très maniable et disons a plus de ce côté un peu plus proche de la Yamaha que l'est la Ducati.
Et ce serait la moto qui va peut-être, parce que la future Honda
elle est très très forte cette année, Honda.
Elle va être très forte la future Honda. Mais par contre après, excuse-moi Charles, mais est-ce que KTM et Aprilia peuvent pas être là cette année faire la surprise?
Apria, oui, peut faire une bonne surprise. Aller chez Spargaro, c'est passer un step-up par rapport à l'année dernière. Après, il faudra voir aussi Maverick Vinales, mais l'Apria sera peut-être un petit peu moins performante que les Ducati notamment, ou peut-être les Suzuki ou les Honda, mais elle sera elle chez Spargaro cette année. Je pense que ça va faire du très bon boulot chez Aprilia. Ils ont très bien évolué.
Alors au calendrier, on sera en Indonésie dans 15 jours. Ouais, termine.
J'ai vu moto GT3, GT2, moi GP2,
GP3, GP2.
Et j'ai juste vu un mec qui vient juste de monter en GP2. Pedro, il est parti Acosta. 26e.
Pedro Acosta.
Exactement.
Le champion rookie de Moto3 l'année dernière.
Et franchement, il est parti 26e, il a fini 12e ou 14e.
Ouais, c'est ça par là.
Mais attention à lui l'année prochaine, s'il peut avoir un guidon.
C'est une grosse pépite, hein. Grosse pépite. 2004.
Ça va être quelque chose.
2003.
Du coup, on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais, je disais sur le calendrier, dans deux semaines, l'Indonésie. Dans un mois, ça sera l'Argentine. Deux circuits qui n'étaient pas au programme l'année dernière. Oui. Donc, ça va être intéressant à suivre, dû au Covid. Allez, on enchaîne avec d'autres sports. Avec toi, Charles, parle-nous de cyclisme. Il y avait une grande classique en Italie, c'était les Strade Bianche.
Exactement, les classiques italiennes qui commencent, entre guillemets, sur le mois de mars. Et on était notamment Strade Bianche, les fameuses courses dans les vignes, sur la terre, c'était le
chemin blanc.
Chemin blanc, exactement. Et on a eu le droit, habituel, quoi. Enfin, c'est l'écœurement pour le.
Alors, le tenant du titre, c'était Wout van Aert. Hein.
Exactement. Mais il n'était pas là. Ni Mathieu Van Der Poel, qui était le tenant du titre d'ailleurs. C'est Van Aert qui avait gagné il y a deux ans. Qui n'était pas là tous les deux. Et Tadej Pogacar a littéralement tué la concurrence en partant à 50 km, échappé solitaire. Personne ne le rattrape.
Hein. Après la chute de la
Philippe. Avec la chute évidemment
d'ailleurs,
de la Philippe.
Il y avait Richard Cofiente qui était là. Et puis il a chanté. J'ai attrapé un coup de soleil quand il a vu passer Julien Alaphilippe au-dessus de son.
Exactement.
Non mais là c'est on a Philippe du coup à cause de cette chute franchement était diminué, a dû revenir notamment sur le peloton parce qu'il était retardataire à ce moment-là. Ça a été très compliqué pour lui et forcément il n'a pas pu se mêler à la bagarre. C'est son coéquipier Casper Asgreen qui a essayé de revenir sur notamment sur Pogacar, mais il n'a jamais pu revenir. Valverde l'a rejoint et Valverde finit deuxième. Donc on a eu un beau podium, mais Pogacar est largement au-dessus du lot.
Il a dit que c'était des routes de merde.
Ah bah c'est un peu le but. C'est un peu le but.
Alaphilippe.
Ah bah oui. Il l'a pourtant gagné il y a 3 ans. Hein,
je plaisante.
Apparemment, c'est un coup de vent qui les a.
Ah, mais oui, il y avait des rafales de vent, c'était énorme. C'est une horreur.
Mais oui, c'est pas les voitures de France 3. Ouais.
C'est ça.
Pogacar, nouveau Eddy Merckx, futur. Est-ce qu'il va tout rafler?
On verra.
Parce qu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Là, il a gagné deux fois le Tour de France.
Et il est surtout tout minot. Hein.
Il est surtout. Génération 98. Hein, c'est genre le Mbappé du cyclisme actuellement.
Du coup, Pogacar.
C'est très rare de voir des jeunes comme ça tout de suite exploser.
Ça devient
c'est
de clair. Plus en plus fréquent d'ailleurs actuellement sur ces deux dernières années.
D'ailleurs, je suis en train de chercher le nom du Colombien qui a gagné il y a très peu de temps.
C'était Bernal qui avait gagné.
Bernal.
Ici, qui est aussi très jeune. Donc,
et Evenepoel aussi qu'on présente.
Et Evenepoel qui arrive aussi. Donc,
très grand.
Et tu parlais de Wout van Aert, mais Wout van Aert, il était sur Paris-Nice.
Exactement, ils ont commencé Paris-Nice hier.
Sans prologue.
Sans prologue, non, c'était, ça commençait par une petite étape vallonnée où finalement la Jumbo Visma a fait tout péter dans la dernière montée. Ils sont partis à 3, littéralement. Hein, ils ont décidé de partir à 3. Christophe Laporte, Primoz Roglic et Wout van Aert sont partis tout seuls. Voilà. Hein, tranquillou.
Pourquoi on amène un sprinter?
Pour le faire gagner, du coup, parce que du coup, il gagne suffisamment, Wout van Aert.
Wout van Aert a lancé Christophe Laporte.
Seul face à lui-même.
Et le troisième n'a pas contré, il s'est mis derrière pour aider.
Il a sucé la roue, c'est bon, il ne pouvait pas passer plus.
Voilà.
Non, belle victoire de Christophe Laporte, du coup, qui, avec un beau travail de coéquipier, mérite cette victoire. Première victoire World Tour pour notre Frenchie, qui est passé chez la Jumbo Visma cette année, qui était chez Cofidis les années d'avant. Donc c'est
faut toujours y aller chez Jumbo Visma. Quand on peut y aller, il faut y aller. Surtout avec l'équipe qu'ils ont.
C'est incroyable.
Là, c'est même plus. Voilà.
Je pense que même en tant que coéquipier,
au moins, ce qui est bien, c'est qu'on aura enfin une équipe peut-être pour concurrencer Ineos.
Et savez-vous pourquoi Christophe Laporte a pu aller chez Jumbo Visma?
Parce qu'il a pas pris la fenêtre.
Elle est très très bonne. Non, parce que celui qui a pris la fenêtre, enfin la porte, ce que vous voulez, c'était le fameux Dylan Renaud-Wegen.
Exactement. Qui est aussi un très très grand coureur.
Oui, et du coup, il a été obligé de partir à cause d'avoir balancé Jakobsen au Tour de Pologne.
Il a été suspendu, tout ça, il y a eu plein d'affaires. Voilà.
On a le vainqueur de l'étape du jour ou pas?
Exactement. Et justement, tu parlais de Jakobsen, et c'est lui qui a gagné.
Jakobsen, Groenewegen, c'est la même histoire.
C'est ça. Groenewegen, il était sur Paris-Nice, mais enfin, il est. il est plus là, hein, actuellement. Il est dans les choux, on va dire ça comme ça. Jakobsen, lui, est en grande performance. C'est sa 6e victoire cette saison. Déjà, hein, c'est pour dire le niveau du monstre
qui avait gagné Kurn, Bruxelles-Kurn. Hein,
exactement.
La dernière, hein, déjà,
exactement.
Hein,
donc
et une nouvelle fois, le Wolfpack a parlé.
Exactement, avec un superbe, très bien lancé, avec Florian Sénéchal, notamment, qui était dans le train. Wout Van Aert et Laporte ont essayé d'aller titiller tout ça, mais Jakobsen, il a déboulé, il a passé Wout Van Aert d'une facilité. C'est le niveau actuellement, il est encore très jeune, hein, c'est génération
le
96.
Vélo, le vélo est en train de passer, un cap.
Classe biberon.
En fait, on a passé le cap, par exemple, au tennis avec un gars comme Federer qui a réussi à faire passer un cap à ce sport-là. Et en fait, là, on sent que justement, vu la rivalité des jeunes qui arrivent, et ben, on peut se retrouver comme un Roger, comme un avec Nadal et Djoko et Murray à l'époque. Ouais. En fait, on peut passer ce cap-là au vélo. Et moi, par exemple, qui n'étais pas un accro de vélo, déjà, Alaphilippe et Pinot ont fait le travail côté français. Ouais. Et de voir ces mecs-là, je pense qu'on est en train de retrouver du public côté chez les jeunes aussi.
Les jeunes terreurs du cyclocross qui roulent différemment.
Entre Wout Van Aert, Van Der. Là, on a des reines des extraterrestres entre Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, Evenepoel qui arrive,
Pitcock,
Bernal, Pitcock, tout ça, toute cette génération. Même Alaphilippe, il est pas si vieux que ça. C'est incroyable.
Le Tour de France, depuis, franchement, ça fait 3 ans qu'il est vraiment fou.
Oui,
il est vraiment fou. Parce qu'avant, on savait que c'était Ineos qui partait, c'était terminé.
Le problème, c'est comment ça commence à être le cas avec Pogacar actuellement. Parce que Roglic était blessé l'année dernière.
Avant, tu faisais comme moi, tu le regardais pour les paysages ou alors pour passer.
Non, en fait, tu regardes le début, tu t'endors un peu, ça fait comme la fin et tu regardes la fin.
Moi, j'écoutais pour Franck Ferrand et
histoire magique.
Patrimoine français magnifique.
Lui qui a remplacé Jean-Paul Olivier. Que...
Nous passons devant le château Louis XIV.
Ouais, donc Paris-Nice, victoire.
Vous n'avez pas vécu des Tours de France dans les années 77-80, comme on a connu avec.
Où on ne voyait rien avec les images parce que la caméra tremblait
oui,
autant que
les caméras qui tombaient devant l'équipe Peugeot. Parce
c'était
que
moins
le mec,
intéressant.
Avait...
En plus, il n'y avait pas le Vendéen Vauclair sur les motos.
Mais non, mais c'était les Inault, Fignon. Viringue et tout dans les 90. Et nous on regardait pas le paysage.
Festina, ouais. Bernard Tapie qui a d'ailleurs donné une image magnifique à ce sport.
Exactement.
Tapie lui c'était la vie claire. C'était
bon, Paris-Nice, on vous donne le nom du vainqueur lundi prochain, tout comme celui de Tirreno-Adriatico, l'autre grande course à étapes qui part aujourd'hui. Hein.
Exactement, ça partait aujourd'hui avec le fameux prologue du début et c'est Filippo Ganna, l'Italien, sur ses terres qui s'est imposé avec 11 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, 18 sur Tadej Pogacar et encore 24 sur Casper Asgreen. C'est voilà, donc les nouvelles générations est bien présente et Filippo Ganna qui en logique, en double champion du monde du contre-la-montre, et bah, s'impose devant le futur, peut-être sans doute pépite belge, Remco Evenepoel.
Ok, allez, un mot de golf avant de parler de football. C'était sur le PGA Tour, le circuit américain, l'Arnold Palmer Invitational.
Et incroyable, Paul Barjon a gagné. Non, je rigole.
Nous fait pas de fausses joies. Non, c'est Scottie Scheffler, deuxième victoire cette année hein, pour le rookie américain qui gagne d'un coup devant Tyrell Hatton et Victor Hovland, deux Européens.
Victor Hovland qui s'est écrassé sur la dernière journée, notamment en plus sur la deuxième, sur le retour du 18, enfin, du 18 trous. Il s'est croûté alors qu'il était en tête.
Ouais. Oui, Paul Barjon ne passe pas le cut, hein, on l'a dit, plus 15 sur les deux premiers tours. Paul qui a des difficultés et qui vraisemblablement n'accrochera pas hein, la 125e place de la FedEx Cup.
Ouais, avec ces résultats-là, c'est pas gagné.
À Porto Rico, Victor de Brems, avec la 55e place de Vincent Pérez, quoi, seulement. Quoi. Ouais,
allez, c'est l'heure de changer le terrain et de parler de football. C'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et si tu permets, Mathieu, on va commencer par les dames, puisque j'ai oublié d'en parler tout à l'heure.
Mais
et
bien sûr.
Il n'y a pas que les garçons qui se qualifient pour Coupe de France.
Il faut en parler.
Il faut en parler. Nantes s'est qualifiée à Reims, les féminines du FC Nantes, au tir au but 3-0. Il n'y a pas que les garçons qui savent les tirer.
Ça dépend quelle joueuse. Hein.
Oui.
J'en parlerai tout à l'heure. J'ai une amie très proche dans cette équipe, donc on va pouvoir se foutre d'elle un peu.
Oui, je veux bien que tu te moques d'elle. Donc, victoire des Nantaises, donc 3-0, qui rencontreront Malheureusement, c'est encore un déplacement Heather en demi-finale.
Mais c'est un autre très, bon tirage.
C'est un très bon tirage parce que l'autre tirage, c'est Fleury 91 face
et
au PSG.
Au-delà de ça, en fait, si vous voulez, la D2 s'est faite, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, la D2 à l'époque chez les garçons, donc il y avait une poule de D1 à 18 clubs et deux poules de D2 avec donc les deux premiers qui montaient.
Ça remonte loin, ça.
Et ben, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est exactement ça chez les filles aujourd'hui.
Mais il y a trois poules.
Non, il y a deux poules.
Il n'y a que deux poules.
Il y a la poule nord et la poule sud. Et la poule nord, donc du coup, il y a cinq équipes pour monter en D1. Il y a Lens, Metz, Le Havre, Lille et Nantes.
Puisque Nantes est premier.
Et Nantes est premier pour le moment. Attention, il va y avoir beaucoup de matchs intéressants qui vont suivre.
On va en parler.
Et dans la poule du sud, donc, il n'y a qu'une équipe pour monter, c'est Rodez, qui s'est fait sortir justement ce week-end par Heather, où Nantes va se déplacer. Et franchement, il y a vraiment un niveau d'écart quasiment entre la poule nord et la poule sud. Voilà pourquoi c'est également un bon tirage.
Et attention, Heather est quand même quatrième. Hein.
Quatrième de sa poule. Il y a une vraie différence entre les deux poules.
Donc oui, alors j'ai envie d'être aussi confiant que toi. Et rappelons que la dernière fois qu'une équipe de D1 affrontait une équipe de D2, c'était l'équipe de D2, c'était Le Mans. C'était Le Mans.
Encore les Pays de la Loire.
Et c'était contre, je crois que c'est Lyon. Bon, depuis, Le Mans est descendu, mais enfin, et aussi en niveau de jeu. Le seul truc qu'on reprochera, c'est qu'il décide directement, dès le départ, quelle ville va accueillir la finale.
Cette année, c'est Dijon. Cette année, c'est que du plaisir.
C'est à Dijon, merci l'enfer. Ouais. Alors que s'ils avaient décidé au dernier moment, bon, en admettant que ce soit le PSG qui passe, ils l'auraient joué au Mans. Et bah du coup, nous et les Parisiens, on aurait pu tous aller remplir la MM Arena et ça aurait été super.
Un match qui aurait pu sentir la rillette, qui va sentir la moutarde.
Bon, alors du coup, juste un mot du championnat, puisque Nantes va se déplacer à Lille. Gros match dimanche.
Mais en fait, là pour quand tu dis gros match, c'est que c'est là où tu peux tuer un adversaire direct pour
c'est
la
ça.
Montée. En fait, et les 4 prochains déplacements de Nantes sont contre les autres équipes du top 5. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le championnat de Nantes va jouer à l'extérieur sur les deux derniers mois.
Exactement. Donc, déplacement à Lille. Derrière, pour fêter nos qualifiés, ça sera Vendenheim. Ça sera le 20 mars. Allez-y nombreux à Sopin, je vous rappelle. C'est gratos. Faut y aller. Il y a 1880 places. Donc, allez dimanche 20 mars pour dire merci aux filles. Et bonne chance pour la Coupe de France.
Ouais, c'est noté pour nos éditeurs. On passe au garçon Fabrice. La folle semaine du FC Nantes commence mercredi avec une demi-finale de Coupe de France face à Monaco.
Ouais, un match fou, un match qui a entamé un petit peu l'Algérie par les Nantais au départ. Et puis tout compte fait, il se réveille. Et match de folie. Et on revient dans le match. Cambori fait les changements qu'il faut au bon moment. Et puis on
revient un peu dans le match chanceusement. On se fait dominer largement par Monaco au début de match, hormis la première occasion de Randall Kolo Muani
dès la première minute.
Après voilà, on a un but, on se prend sur corner si je crois bien.
Coup franc la feinte à 3 là.
Oui, la tête de Maripane
avec Rémi Descamps.
Et Descamps qui va chercher les palourdes là.
Ça, il saute pas, il est surpris.
En fait, il est surpris parce que il a dévié au dernier moment, il l'attend dans ses bras et
non, en fait, il doit
sortir
en fait,
au deux
en fait,
points.
Si tu veux, là, t'as Anthony Lopez dans les buts, ou Alban Lafont. Le bonhomme, Maripane, il se relève pas.
Il prend les
deux points et le poids du bonhomme sur la tête et il se relève pas le gâteau.
Je dis pas le contraire. J'ai pas dit que c'était une bonne sortie. J'ai juste que lui, il l'attend dans les bras, il s'attend pas que Maripane.
Non, mais il a le genou au sol.
Il attend les bras dans les mains parce qu'il pense que Maripane ne va pas la toucher.
Mais déjà, hormis ça, bien sûr, Descamps doit être dessus. Mais déjà, de base, Giroto, Castelletto ou Palois, il y en a un des deux qui doit pouvoir réussir à descendre.
Et c'est Castelletto qui le suivre.
Il a fait tous les trois, je suis d'accord. Mais après, on va pas reprocher à Descamps ce qu'il a fait ce soir-là parce qu'il a fait un match.
Non, sur l'occasion.
Tout au long de la rencontre, pendant 90 minutes, c'est compliqué pour lui. Il est bon dans le tir au but. C'est compliqué, fou, 90 premier, minutes.
Ouais. Exactement.
Non, après, il fait une ou deux parades. Après, il va t'envoyer un ballon à un moment en touche à droite, en touche à gauche.
Il ne trouve pas un seul
partenaire sur l'ensemble du match quand il veut dégager. Et là, il a ses. Bon, deuxième but, ça sera pas que pour lui, même s'il est aussi fautif. Mais le premier, il a pas
le droit. Et preuve, c'est ce que lui.
Le deuxième, c'est pareil, Alban Lafont, il te sort, il te fout un impact et il prend le ballon.
Ce que lui dit ce que lui dit Lafont, d'ailleurs, à la fin du temps réglementaire, c'est oublie le match, maintenant c'est les pénaux, quoi.
Ah oui, c'est différent.
Ça veut dire quand même que.
Et on sait qu'il est bon sur les pénaux, ils avaient déjà qualifié, notamment face à Sochaux.
Mais on sait que du coup, quelque part, quand il lui dit ça, c'est qu'il a conscience qu'il a, lui aussi, qu'il a pas fait un énorme match.
Tu le vois sur les 80, sur les 90 minutes.
Il n'est pas serein.
Il
a fait plusieurs sorties, notamment un moment sur un corner où il était le ballon, enfin, ça a cafouillé.
Oui, il a traversé. Et puis
il a combien de matchs en Ligue 1, le garçon ?
Zéro en Ligue 1.
Et joue que Coupe de France.
Mais en fait, déjà, de base, moi j'ai du mal à comprendre déjà comment il a pu arriver ici en numéro 2. Alors ça va pas, c'est pas pour être méchant pour lui. Non, je vais t'expliquer. En fait, je vais t'expliquer, c'est un peu méchant. Excuse-moi.
T'as les infos.
Mais il a été formé au PSG, ensuite il est pris à Charleroi et au Standard où en fait il n'est que numéro 2 toute sa carrière. Donc en gros, quand tu arrives du Standard du Liège que t'es numéro 2, est-ce que t'as ta place en tant que numéro 2 FC Nantes ? Pour moi, tu dois prendre, au pire des cas, tu prends un jeune gardien au cas où, parce qu'Alban Lafont peut très bien s'en aller en fin de saison. Tu peux prendre, il a 25 ans, et tu peux prendre un autre gardien. Mais tu peux prendre un Oliero qui aurait eu sa place, un Charlie Jean que t'as acheté n'importe comment. Tu aurais pu permettre à des jeunes comme ça de pouvoir créer quelque chose, et pourquoi pas derrière d'avoir ta chance en tant que numéro 1. Et au pire des cas, si tu fais pas le taf, tu te fais sortir en fin de saison. Sauf que vu comment c'est géré, et ça fait de moultes années, on vire les jeunes du centre de formation parce qu'il faut mettre en mur entre le centre de formation et le FC Nantes. Et vu que tu dégage tout le monde, à un moment donné, tu prends le numéro 2 de Charleroi pour le faire venir à Nantes. Pour moi, c'est pour ce que je veux te dire, c'est que quand tu sais comment est créé Nantes, quand tu sais ce que représente le FC Nantes, tu dois avoir en numéro 2, comme Willy Grondin l'a été, comme d'autres l'ont été avant eux, un jeune du centre de formation.
Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, surtout qu'on a vu des joueurs de gros talent qui étaient...
Si tu savais le coup de gueule sur le FC Nantes, je pourrais te lâcher pendant une demi-heure.
Profite.
Est-ce que ce garçon il va jouer la finale, puisque tu me dis qu'il joue la Coupe de France?
Je vais vous dire franchement, je pense qu'il va la faire.
Non. Évidemment qu'il jouera la finale.
Je pense qu'il va la faire.
Comboiré ne va jamais revenir sur la
décision. Sinon il n'aurait pas fait l'ennemi.
Antoine Comboiré a dit...
Il a encensé hier en conf son gardien Alban Lafont, il va s'en passer en finale.
Non, Antoine Comboiré a dit... J'avais prévu de le mettre jusqu'en demi-finale. Pour la finale, je n'ai pas décidé.
Oui, ça veut tout dire. Il sait très bien qu'il mettra Lafont.
Arrêtez d'essayer de parler. Si vraiment tu veux parler à sa place, tu vas aller parler à sa place en face de lui. Tu vas peut-être partir.
On peut poursuivre sur le match,
je vais dire, mais
s'il vous plaît.
Mais
donc, une séance de pénalty victorieuse pour le FC Nantes. Et là, Fabrice, ça me rappelle la montée face à Sedan. On descend sur la pelouse et c'est le grand
terrain.
Bordel.
Oui, j'ai...
Interdiction de
stade.
Comme
on aime tant ça.
Je rigole. Là, c'est joyeux. On n'était pas à Marseille ni à Nice.
Bon, on mettra tout sur le lot.
S'il y a un problème, on mettra tout sur le lot. Ça coûte un envahissement de terrain. Ça coûte combien un envahissement de terrain?
Alors, ça n'a pas coûté trop cher là pour le moment. Non, franchement.
Non, c'est le fumigène qui a coûté plus cher.
Oui, et le fumigène d'ailleurs. Parce que moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que du coup, on a dit attention, jetez pas de fumigène. Le truc qui venait d'en dehors du stade quand même.
Ah mais oui,
il venait d'en dehors
du stade.
Tout à fait, ouais.
Chapeau.
Voilà. Et je voulais juste, on va parler de l'envahissement de terrain. Je voulais juste avoir une pensée pour ces quelques personnes qui ont eu beaucoup de mal, qui ont dû partir au CHU du coup suite à cet envahissement de terrain parce qu'ils se sont fait scotcher sur les barrières. Ouais. Et je voulais juste qu'on pense quand même à eux parce que il y a eu ce moment-là quand même aussi.
C'est le problème des envahissements de terrain. Chaque fois, c'est la pagaille. Il y a forcément.
Mais en fait, quand tu sais pas.
Ah bah
tu vois pas les gens arriver. T'as 7000 personnes qui arrivent.
Ouais, faut tous y aller quoi.
Faut tous ensemble.
Tu veux ton petit carré de gazon sur le terrain.
Non, laissez le gazon, la pelouse est toute neuve, elle est nickel.
Ah bah là.
Bon, donc Nantes qui retrouvera Nice pour une belle affiche. Belles équipes.
À noter quand même que du côté de Nantes, il y a Rémi Descamps, ancien du PSG, et Marcin Bulka, prêté par le Paris Saint-Germain, qui a fait aussi la campagne de Coupe de France avec Nice. Donc c'est les deux anciens finalement gardiens du PSG qui jouent la finale et pas
qui jouent la finale, c'est exactement.
Bon, il nous reste 5 minutes pour parler de la
juste
fin.
Juste une stat pour vous faire plaisir.
De semaine du FC Nantes.
Et après je vous laisse tranquille, juste une petite stat. Nantes n'a jamais gagné de
contre
finale,
une équipe de Ligue 1,
voilà,
oui, ou de D1, ça je suis d'accord avec toi.
Donc,
la dernière fois c'était calé, on s'en rappelle.
Mais soyez pas trop confiant.
Oui, non moi je suis pas confiant du tout parce que Nantes ça sera la 10e finale de Nantes, si on ajoute la Coupe de la Ligue, et Nantes en a perdu 6.
Ouais.
Mais du coup, 6. Non, 5. 6 en comptant justement.
Il
n'y
a que
3
victoires,
de...
donc voilà, 79, ça. 99 et 2000.
Mais par contre, on sera très très nombreux et j'espère qu'on va nous autoriser un maximum de places. Hein,
20 000.
Il faut qu'ils augmentent la jauge.
Et je te le redis, 20 000.
Il faut qu'il la monte à 50 000, les Parisiens
j'ai
touristes.
J'ai le numéro de Noël Le Graët, tu l'appelleras si tu veux.
Oui, mais je vais peut-être l'appeler pour le pourrir. J'ai déjà 2-3 trucs qui m'énervent. Donc, j'hésiterai pas.
On parle du foot féminin.
Allez, on enchaîne sur la 27e journée de Ligue 1. On reste chez les Canaries. C'était hier à 15h à la Beaujoire. Et c'était la réception
de Montpellier, un adversaire direct hein, pour les places européennes.
C'est un adversaire direct, on était à peu près au même niveau au nombre de points, et une victoire très importante pour continuer dans cette dynamique positive. Actuellement, on va enchaîner les bons résultats, notamment avec la victoire du Paris Saint-Germain, bon, le match nul à Metz, avec des joueurs en moins, et là, la qualification, et là, c'est une victoire 2-0 avec encore un Randal Kolo Muani qui marque, 10e but de la saison.
Ouais, super détente, hein, il monte beaucoup plus haut que son défenseur, et il ajuste le goal.
C'est le but en lui-même qui vous a rendu fou ?
Non.
Moi,
non.
C'est la passe de
Blas.
Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas comment tu peux avoir un œil derrière. Pour faire un geste comme ça, tu fais un moitié retourné acrobatique pour mettre un ballon parfait pour Randal Kolo Muani. Après, il a une détente, on dirait Cristiano Ronaldo. Quoi. Enfin, au niveau de la détente, je vous jure, c'est vrai. Et quand il va chercher ce ballon-là, bon, bah, on se dit.
Mais tu sens la réussite, c'est surtout, ils tentent ça, ouais. Puisqu'ils ont une réussite de folie. Parce que c'est Quentin Merlin qui donne le ballon à Blas. Ouais.
Justement, Quentin Merlin.
Chanteur.
Oui, Quentin Merlin.
Jean-Marc, t'en penses quoi ? Ces deux frappes en deuxième mi-temps, en début de premier.
Heureusement qu'elles étaient là parce que c'est tout ce qu'on a vu en première. Hein.
Bah oui, parce que faut savoir.
Toi aussi, t'as pris l'oreiller là ? Ouais. Elle était bien l'oreiller.
Montpellier n'a tiré qu'une seule fois au but. Hein. Ouais. Faut savoir. En première mi-temps, on disait au bout de 20 minutes, ils étaient à 57%, on était à 43%.
C'est ce qu'a dit Daloglio. Mais d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Faut savoir quand même, Nantes, on est l'une des équipes qui a le moins de possession avec le FC Metz.
Et c'est parti directement en live. Deuxième mi-temps, ils sont revenus sur le terrain métamorphosé. Et là, on n'a pas compris quoi. Bon, ils ont attaqué
c'est
partout.
C'est ça qui est bien.
Mais c'était beau.
T'as un truc qui est en train de se créer, comme tu dis, Charles, t'as tout à fait raison. En fait, le truc, c'est que peu d'équipes gagnent après une demi-finale de Coupe de France remportée. Parce qu'en fait, t'as donné tellement d'énergie. Il y a une fête qui a été extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça le match nul contre Metz. Parce que tu sais très bien que les mecs, dans la tête, ils ont déjà la demi-finale. Et tu sais très bien que du coup, qu'à la 70e, quand tu sors Blas et Kolo Muani, tu sais que les mêmes. Voilà, Antoine Comboiré avait la demi-finale dans la tête. Et quand tu sors de ce match qui t'a donné un truc de coup de ouf, parce que le cœur de Randal Kolo Muani, quand il est en train de sauter pendant une demi-heure devant les supporters, il en avait rien à branler de. Pardon, il en avait rien à faire de Montpellier le week-end qui arrivait. Et derrière, en fait, t'as quand même un homme, à un moment donné, on va en parler, j'en ai parlé aussi dans l'émission sur France Bleu Océan mercredi soir. Antoine Comboiré, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle sérieusement.
C'est ça. Ah, c'est toi qui m'invites alors, du coup.
On va en parler très, très sérieusement parce que ce qu'il fait depuis Strasbourg la saison dernière, je pense que.
Bien sûr, tout ça enclenché par Raymond Domenech, n'oublions pas.
Mais non, ça commence grâce à Raymond, c'est ça.
Tu rigoles, mais pour moi, il est important, Raymond Domenech, dans tout ça, parce qu'il a tellement tué les gars. Ah, il les a tellement mis à zéro que, du coup, Comboiré a pu faire un travail psychologique, mais c'est pas une blague.
C'est de l'humour ou...
Non. Il a mis les gars à zéro, mentalement, les gars étaient à zéro. Il est arrivé, il les a remobilisés, et du coup, ce qu'on fait que les mecs ont trouvé du talent en Antoine Comboiré, et donc du coup quand t'as une foi fou en ton coach, et ben quand il te parle tu fais ce qu'il te dit, et quand Antoine Comboiré coach
tu retrouves de la confiance,
tu finis 6e et t'es en finale de Coupe de France.
On sait très bien que le foot c'est un sport de confiance.
Puis dans ce match coaching gagnant, les 3 des 5 remplaçants,
c'est ça, Moutou Samy qui passe pour Boukari, qui centre tranquillement
pour Goebbels, le gardien Montpellier 1 sur l'agenda. Il faut continuer cette belle série pour aller justement
on va à 3 samedi prochain à 21h,
Strapontin ou mieux pour la Ligue Europa pour le FC Nantes. C'est 3 effectivement sur
doucement
le calendrier.
On va prendre les 3 points.
Doucement avec l'Europe.
Oui, mais on a le droit de rêver, nous. Hein. Même si c'est interdit.
Si on gagne la Coupe de France, déjà on est en Europa
l'année
League.
L'année prochaine, t'as 4 descentes et t'as beaucoup de gens qui vont s'en aller.
C'est ça,
Je suis pas sûr qu'il faut l'espérer l'Europe non plus.
Je suis un peu d'accord avec toi.
On attend depuis tellement longtemps.
Tu sais ce qu'on attend depuis tellement longtemps ? C'est le collectif nantais d'ailleurs. Vous pouvez mettre 100€, c'est parti. Vous pouvez y aller. Michael Landreau est là. Tout le
C'est un message à vous, chers auditeurs, avant de rendre l'antenne. Investissez dans le FC Nantes, le club de votre ville. Bon, il est 20h. On va parler, ils vont parler de NBA. C'est nos potes de Passage en Force. À ciao, à lundi prochain. Bye bye.
À tout de suite.
Salut, bonne émission à Passage en Force.